et le journal est donc présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. La France accueillera bien 20 des 64 migrants actuellement à bord d'un navire humanitaire en Méditerranée, annonce faite tout à l'heure par Christophe Castaner dans la foulée d'une décision identique prise par l'Allemagne, précision d'Isabelle Labéry dans un instant. Nous irons également en Algérie et au Soudan dans ce journal. Dans ces deux pays, les mobilisations se succèdent pour venir à bout de systèmes politiques viciés, les manifestants n'entendant pas se laisser amadouer par la chute de ceux qui en étaient à la tête et refusant pied à pied de laisser tout pouvoir aux militaires. En France, la suite du procès Mera, correspondance de Florence Turm, une nouvelle manifestation contre l'inaction climatique qui a rassemblé quelques centaines de jeunes à Paris, reportage de Théo Conscience, et puis l'enquête de cette édition signée Abdelhakel Idrissi sur les Dubai Papers, nouvelle série de révélations sur l'évasion fiscale. Peut-être une solution en vue pour la soixantaine de migrants toujours à bord du navire Alan Kurdi en Méditerranée, affrété par l'ONG Sea Eyes. Il attend toujours de pouvoir accoster, probablement à Malte, le temps pour les autorités européennes qui, une nouvelle fois, ne se bousculent pas de se répartir la charge de l'accueil de ces réfugiés qui ont été sauvés des eaux le 3 avril dernier. Après l'Allemagne, la France vient donc d'annoncer son accord pour l'arrivée sur son territoire d'une vingtaine de personnes. Isabelle Labéry.
Cela fait 9 jours que le navire Alan Kurdi et ses passagers errent entre Malte et l'Italie. 9 jours à attendre qu'un port les laisse accoster. 9 jours à espérer en vain que les capitales européennes cessent de se renvoyer la balle. Yann Ribeck est le porte-parole de l'ONG CI.
Pendant qu'on attendait, on a eu 2 évacuations médicales. On n'est pas sur un navire de croisière, c'est un tout petit bateau où l'équipe médicale travaille 24 heures sur 24. Chaque jour supplémentaire en mer peut créer des problèmes. Mais tout ça fait partie d'une stratégie pour évincer les associations humanitaires des zones de sauvetage.
La semaine dernière, l'Union européenne a mis un terme aux opérations navales de Sophia, une mission militaire destinée à lutter contre les trafics de migrants, mais qui, depuis 2015, a sauvé plusieurs milliers de réfugiés. L'ONG CI, épaulée par plusieurs eurodéputés, demande le redéploiement de ces bateaux. L'Alan Kurdi, en mer depuis le mois de décembre, est désormais le seul navire de sauvetage à patrouiller en Méditerranée.
Isabelle Labéry, Médecins sans frontières, de son côté, dénonce une complicité de fait du gouvernement français avec les trafiquants d'êtres humains en Libye, façon de répondre à Christophe Castaner qui parlait, lui, d'une supposée complicité des ONG avec les passeurs en Méditerranée. En Libye, les combats autour de Tripoli, concentrés notamment dans les faubourgs du sud de la ville, continuent en dépit des appels au cessez-le-feu et des demandes de la communauté internationale. Rien, pour l'instant, ne semble pouvoir contraindre le maréchal Haftar à stopper son offensive. La situation humanitaire en Libye, notamment sur le plan sanitaire, devient extrêmement préoccupante. Plus de 8000 personnes ont déjà été déplacées par les combats dus à cette offensive vers l'ouest. La moitié de ces déplacés l'ont été au cours des 2 derniers jours, d'après l'ONU. En Algérie, ce sont de nouvelles marées humaines qui ont déferlé aujourd'hui, vendredi, dans les rues des principales villes du pays. Les manifestants sont plus que jamais déterminés à obtenir beaucoup plus que le simple départ d'Abdelaziz Bouteflika ou que des élections dans le cadre d'un système par beaucoup honni. Peu importe les promesses de vigilance faites par l'armée en ce qui concerne la transparence du processus électoral pour les élections prévues le 4 juillet, les protestataires, Thibaut Cavaillès, ne quittent pas la rue.
Les Algériens qui ne se contentent pas de la démission de Bouteflika. Ils ne veulent pas, et le font savoir, d'élections organisées par des représentants de ce système qu'ils veulent mettre à bas. Le peuple veut qu'ils dégagent tous. Ou encore, le peuple est éduqué, l'État est traître. Des centaines de milliers de gens dans les rues du pays, toujours de façon pacifique, alors que la date du 4 juillet pour la prochaine présidentielle a été annoncée. Pas question pour les Algériens qu'elle soit organisée par Ben Salah, président par intérim, et par Bédaoui, premier ministre, 2 des 3 B avec Belaïz, président du Conseil constitutionnel, que les Algériens veulent voir partir. Le peuple refuse l'organisation de cette élection du 4 juillet, explique au milieu de la foule à Alger l'avocat des droits de l'homme et figure de ce mouvement, Mustapha Bouchachi. Le peuple doit continuer à combattre de manière civique mais énergique contre cette mascarade de gouvernement provisoire. Il ne doit pas baisser les bras jusqu'à l'éviction des 3 B. Bouchachi, qui appelle à la création d'un comité collégial constitué de femmes et d'hommes et validé par les Algériens. Une fois de plus, les canons à eau ont été sortis par la police, les manifestants ne répondent pas à ce qu'ils considèrent être une provocation et continuent à brandir l'humour comme seule arme. Dans le cortège algérois, par exemple, une banderole dit « Nous n'avons plus de slogan, dégagez !»
Thibaut Cavaillès. Au Soudan maintenant, le jour d'après, les généraux qui ont destitué hier Omar el-Béchir tentent de donner des gages et de rassurer après avoir envoyé hier, c'est vrai, des signaux très peu encourageants pour la population. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
Après avoir parlé de la possibilité d'une transition longue vers un pouvoir civil, les voilà ces généraux qui évoquent désormais un délai d'un mois.
Oui, un mois. Et comme on peut l'entendre hein, sur les images qui sont relayées sur les réseaux sociaux par les manifestants, on entend cette foule qui est toujours massée dans les rues de Khartoum. Et cette foule, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne se taira pas tant que Ibn Auf est en place. Ibn Auf, c'est le nouvel homme fort hein, du Soudan, le ministre de la Défense d'Omar el-Béchir, qui préside donc ce conseil militaire qui entend diriger hein, cette transition. Alors c'est un homme vraiment qui incarne l'ancien régime et dont le passé de chef du renseignement militaire lui vaut quand même d'être suspecté de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit au Darfour. Bref, pas vraiment le militaire auquel les manifestants aspiraient lorsqu'ils ont demandé à l'armée d'assurer la transition. Alors ce matin, vous l'avez dit, les militaires ont promis que cette transition qui était donc prévue pour durer 2 ans pourrait être raccourcie à 1 mois à condition que le pays ne tombe pas dans le chaos, traduire que tout le monde rentre gentiment chez soi. Ils ont aussi garanti que ce serait un gouvernement civil qui allait diriger le pays. Et en ce moment même, à Khartoum, les consultations se multiplient. L'armée s'est engagée à discuter avec toutes les forces en présence. La communauté internationale suit de très très près et avec beaucoup d'inquiétude en fait ces négociations, car c'est seulement la composition globale de ce conseil militaro-civil qui va permettre de donner une indication significative sur la suite des événements et surtout de savoir si une 7e nuit consécutive la foule va maintenir la pression dans les rues de Khartoum et toutes les grandes villes du pays.
Merci, merci beaucoup Claude Guibal. Les juges de la Cour pénale internationale ont refusé d'autoriser l'ouverture d'une enquête pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés commis depuis 2003 en Afghanistan. C'était pourtant la demande du bureau du procureur de la CPI, mais une telle enquête à ce stade ne servirait pas les intérêts de la justice, a jugé la Cour. La mise en garde relativement claire aux États-Unis de Bruno Le Maire en déplacement à Washington à l'occasion de la réunion de printemps du Fonds mondial international et de la Banque mondiale au lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron qui s'oppose à l'ouverture de négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Le ministre français des Finances est en quelque sorte venu faire le service après-vente. Il a rappelé que la France s'opposera à toute négociation avec des pays ne reconnaissant pas l'accord de Paris sur le climat et il s'est également exprimé sur la rivalité Airbus-Boeing. Bruno Le Maire.
Quand nous avons été touchés de manière injuste par l'augmentation des tarifs sur l'aluminium et sur l'acier, l'Europe a réagi fortement et d'une seule voix. Si nous devions à nouveau être touchés par des sanctions américaines injustifiées et injustifiables, l'Europe se tiendrait prête à riposter de la même manière, de manière unie et de manière forte. Tout cela serait mauvais pour la croissance et mauvais pour la prospérité américaine comme pour la prospérité européenne. Donc nous devons éviter d'en venir là. Et j'ai dit au secrétaire américain au Trésor, je redirai cet après-midi à Bob Lighthizer, que la France souhaite que nous parvenions à un accord à l'amiable avec nos alliés américains sur la résolution du cas Airbus-Boeing. Si nous entrons dans une logique de sanctions, une fois encore, ce sera mauvais pour la croissance et le seul acteur commercial qui en tirera un bénéfice, c'est la Chine et le constructeur aéronautique chinois Comac. Je ne crois pas que ce soit ce que nous souhaitions, ni les Américains, ni les Européens.
Des propos recueillis à Washington par Grégory Phillips, Bruno Le Maire, selon qui par ailleurs il n'y a pas assez de solidarité dans la zone euro. Les divergences économiques croissantes entre les États membres sont insoutenables à long terme, d'après le ministre des Finances. En France, la suite du procès Mera en appel. Abdelkader Mera est poursuivi aux côtés de Feta Malki pour complicité des assassinats commis en 2012 par son frère cadet Mohamed Mera. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
Depuis le palais de justice de Paris, la parole ce soir est aux avocats des parties civiles.
J'ai un privilège, commence Francis Piner. Comme vous, dit-il au magistrat, je n'étais pas au premier procès. Pendant une heure, l'avocat de la famille Ibn Ziaten va donc s'efforcer de démontrer la complicité que la cour avait écartée en novembre 2017. Il reprend la chronologie des 7 mois qui précèdent le premier crime, celui de Toulouse, où Mohamed Merah donne rendez-vous à Imad Ibn Ziaten pour lui acheter sa moto. Une annonce sur le Bon Coin qui porte la mention militaire. Le malheur d'Imad Ibn Ziaten, poursuit Francis Piner, ça va être son honnêteté. Selon lui, aucun doute sur la connexion réalisée le 4 mars au domicile de la mère d'Abdelkader Merah pour consulter cette annonce. Mohamed Merah n'était pas là. Le 4 mars, affirme l'avocat, Abdelkader Merah a trouvé sa cible. Francis Piner fait défiler les dates, les achats d'une GoPro, de talkie-walkie, la location d'un box, le vol du scooter qui va servir aux attentats. Et là, tout est en marche. On a les armes, les planques, les moyens du vol et la cible potentielle. L'avocat s'appuie aussi sur la première vidéo tournée par Mohamed Merah juste avant d'abattre Imad Ibn Ziaten et où l'on entend les mots « mon frère », mais sans pour autant pouvoir tirer de certitude sur une présence extérieure. Dans le box des accusés, Abdelkader Merah ne le quitte pas des yeux, même lorsque Francis Piner l'apostrophe sur le ton du défi « quelle lâcheté aujourd'hui de renier votre frère pour échapper à quelques années de prison alors que vous êtes fier de lui ». Il n'y a pas ici de justice d'exception, conclut l'avocat, mais l'état de droit n'est pas l'état de faiblesse. Madame Ibn Ziaten, personne ne lui rendra son fils, mais je suis sûr que la France, ce pays à qui vous avez tout donné, la France, dit-il, vous rendra justice.
Merci Florence Sturm depuis le palais de justice de Paris. La jeunesse a de nouveau manifesté pour le climat aujourd'hui et contre l'inaction climatique. Depuis le 15 février dernier, lycéens et étudiants, parfois collégiens, se rassemblent tous les vendredis pour répondre à l'appel lancé par la Suédoise Greta Thunberg. Cette jeune fille de 16 ans est à l'origine du mouvement international de grève pour le climat. Bonsoir Théo Conscience.
Bonsoir Benoît.
Pour cette 9e semaine de mobilisation en France, c'est en musique et c'est surtout devant l'Assemblée nationale que les jeunes ont décidé de se réunir.
Devant le Palais Bourbon, l'ambiance était festive malgré l'urgence climatique, un paradoxe très bien résumé par le thème de cette nouvelle mobilisation.
Dernière teuf avant extinction, et le principe c'est de faire une grosse rave ou teuf géante devant l'Assemblée nationale, parce que depuis le début ils nous entendent pas du tout en fait.
Faire une grande fête pour enfin se faire entendre. La jeune fille que l'on vient d'écouter, Camille, se mobilise toutes les semaines depuis 2 mois et elle ne comprend pas que le gouvernement n'ait toujours pas réagi, d'où le choix de l'Assemblée nationale pour cette manifestation.
C'est une façon aussi de dire on vous prend plus au sérieux, donc on va juste s'amuser à côté d'un lieu de pouvoir.
Paul, le DJ du jour, il a 21 ans et sur la même longueur d'onde.
Devant l'Assemblée nationale, c'est vrai, c'est un symbole assez fort des députés qui refusent d'entendre les revendications, qui sont toujours sourds à l'écologie ou sur plein de thèmes. Les gilets jaunes, c'est pareil, ils n'écoutent pas. Bah voilà, on va leur mettre un peu de son pour qu'ils essayent d'ouvrir les oreilles un peu. Ouais.
Et au milieu de tous ces jeunes qui dansaient et qui chantaient, il y avait aussi Pony. Elle a 17 ans, elle est venue de Seine-et-Marne, c'est sa première manifestation. Et sur sa pancarte, elle a écrit « Entends-tu le printemps silencieux ?»
Vous baladez en forêt avec vos enfants, faire du vélo. Et puis, voilà, c'est le début du printemps, on se dit oh, « on va écouter le chant des oiseaux, voilà, les petits écureuils, la forêt. » Et rien, aucun bruit. Et c'est ça le printemps silencieux, c'est qu'il n'y ait finalement aucun bruit parce que toute la faune et voilà, toute une biodiversité a été complètement perturbée et des espèces entières disparaissent.
Et ce que l'on pouvait lire sur beaucoup de pancartes, c'est que si l'on ne fait rien, la prochaine espèce à disparaître, ce sera la nôtre, l'espèce humaine. Alors pour ne pas en arriver là, les jeunes qui manifestaient aujourd'hui ont décidé d'arrêter d'être la majorité silencieuse et de se faire entendre.
Merci Théo Conscience. Les conclusions très sévères de la rapporteure spéciale de l'ONU pour le logement, Leilana Farah, concernant le respect du droit en France à un logement convenable. Ses premières conclusions présentées ce matin sont sévères. Après avoir passé 10 jours en France, Leilani Farah dénonce la saturation du 115, des expulsions forcées et répétées de certains camps et puis le caractère inopérant de la loi Dalo, la loi pour le droit opposable au logement, une loi pourtant modèle selon elle.
C'est l'un des seuls pays dans le monde où il y a la possibilité de se tourner vers un juge et de faire valoir son droit au logement. C'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. Dans les droits humains internationaux, on dit souvent qu'un droit est illusoire si on ne peut pas le faire valoir. Ailleurs dans le monde, c'est très difficile de faire valoir le droit au logement car beaucoup de gouvernements rechignent à reconnaître ce droit comme étant un droit humain. Donc vous êtes très en avance en France. J'ai cité la loi Dalo en exemple dans beaucoup de mes rapports. J'ai aussi remarqué qu'elle posait de nombreux problèmes. J'ai rencontré beaucoup de personnes prioritaires aux yeux de la loi Dalo, mais qui attendent un logement depuis 10 ans, alors que la loi dit que l'attente ne doit pas être de plus de 6 mois. J'évalue la France à l'aune de ses richesses et en tant que sixième puissance mondiale. Est-il acceptable d'avoir une augmentation de 58% du nombre de sans-abri entre 2001 et 2012? Est-il acceptable que des familles se retrouvent à la rue? Non, ça n'est pas acceptable. Et selon les droits humains internationaux, être sans-abri constitue une grave violation du droit à un logement décent.
Leilani Farah, rapporteur spécial de l'ONU pour le logement, au micro de Laura Dulieu. 18h16 bientôt sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête du service investigation de Radio France. Bonsoir Abdellah El Idrissi.
Bonsoir.
Vous avez enquêté sur les Dubai Papers, nouvelle série de révélations sur l'évasion fiscale, encore une fois très impressionnante. Avec nos confrères du magazine L'Obs, vous avez notamment eu accès aux données d'une société qui s'appelle Elin et qui est installée près de Dubaï.
Oui, une société spécialisée dans l'évasion fiscale qui est dirigée par un franco-belge qui s'appelle Henri de Croy. Parmi ses clients, on trouve de nombreux chefs d'entreprise français, mais aussi des particuliers qui ont hérité de comptes bancaires dont certains avaient été ouverts par leurs parents ou même leurs grands-parents. C'est le cas de cette femme dont nous avons modifié la voix. Elle nous a raconté comment sa famille lui a appris qu'elle possédait 25 millions de dollars sur un compte caché en Suisse.
J'apprends ça et on me dit c'est comme si c'était de l'argent volé. Ça veut dire qu'il faut pas en parler. Je vais mettre toute la famille en danger. Qu'il faut que ça reste complètement secret. Enfin, c'est assez stressant. Hein.
Et un secret stressant de ce type, ils sont nombreux à en partager. C'est aussi le cas de cet ancien entrepreneur. Son grand-père avait lui aussi placé des centaines de milliers d'euros sur un compte en Suisse. Et plus tard, c'est son père qui allait récupérer l'argent.
C'est très simple, il demandait le montant dont il souhaitait disposer et on lui indiquait l'endroit où une personne viendrait lui remettre une enveloppe avec les fonds dedans. Ensuite, mon père est décédé et donc j'ai été amené à le pratiquer de la même façon, une fois ou deux, et on m'a proposé des cartes de retrait qui sont assimilables à des cartes de crédit qui permettent de tirer de l'argent depuis un distributeur.
Des cartes de retrait de cash, Abdellah, ce qui signifie qu'on peut retirer de l'argent provenant de la fraude fiscale depuis n'importe quel distributeur de billets français.
Exactement, et on le comprend très bien en examinant la manière dont fonctionne Elin. La société met à disposition de ses clients des cartes prépayées. Ces cartes fonctionnent effectivement dans des distributeurs des banques françaises, mais on sent clairement que le fondateur d'Elin, Henri de Croy, a conscience qu'il joue avec le feu, et cela transparaît bien dans ce fax que nous avons fait lire.
Les cartes sont des systèmes dangereux. Il faut donc limiter l'émission de ces cartes à très peu d'utilisateurs et leur répéter sans arrêt que ce n'est que pour des sorties cash. Les cartes sont notre tendon d'Achille. Je vous rappelle qu'il suffit qu'il y ait un seul client qui ait un problème pour qu'une demande administrative auprès de l'émetteur de la carte permettent à l'administration fiscale et à la police de remonter à tout le monde.
Effectivement, on le sent un peu inquiet, Henri de Croy. Maintenant, dans ce système, Abdellah, qu'il n'y a pas que les fraudeurs et une société qui gère leur argent. Entre les deux, il y a aussi, il faut qu'il y ait des intermédiaires.
Oui, des personnes qui vont mettre en contact les fraudeurs avec la société Elin. Parmi ces rabatteurs, comme on peut les appeler, on trouve des banquiers, des experts comptables, des notaires, mais aussi des avocats. C'est le cas notamment de Patrick Moshkovitch, un avocat parisien. Écoutez encore ce mémo d'Henri de Croy qui évoque sa relation avec lui.
J'ai rencontré Maître Moshkovitch et Madame X, le nom ne m'a pas été donné. Elle a à peu près 100 000 euros dans une banque en Suisse. Ces mêmes 100 000 seront remis à Paris. Coût total de l'opération, 8%. C'est un peu juste, mais Maître Moshkovitch avait négocié cela. Il s'attend de plus à une rétrocommission de la moitié.
L'avocat de Maître Moshkovitch, Pierre-Olivier Sûr, nous a lui assuré que l'argent dont son client s'est occupé ne serait jamais arrivé en France. Et ces faits, dit-il, dateraient d'une époque où les règles éthiques, bancaires, fiscales et pénales étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le parquet national financier a ouvert une enquête sur le groupe Elin.
Merci Abdellah El Idrissi. Votre enquête sur les Dubai Papers est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Un temps instable demain sur les régions du sud-est et du nord-est. D'après les prévisions de Météo France, il sera beaucoup plus lumineux ailleurs. Mais au fil des heures, nuages et averses, parfois de neige, reviendront sur les Alpes, les Ardennes, les Vosges et le Jura. Il faudra s'attendre à des gelées au petit matin. À l'intérieur des terres, température maximale de 7 à 11 degrés sur le nord et jusqu'à 20 degrés dans le sud-ouest.